L'Inconfortable, le podcast intersectionnel haut en couleur qui te sort de ta zone de confort. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast intersectionnel L'Inconfortable, le podcast qui aborde sans détour les discriminations en Suisse. Je m'appelle Casio Arem-Rotzetter, je suis journaliste, formatrice et spécialiste en discrimination multiple et en intersectionnalité, et je m'intéresse particulièrement aux enjeux liés au racisme, au sexisme et à l'hostilité anti-LGBT. Je suis moi-même une femme défavorablement racialisée issue de la migration kurde et queer, et aujourd'hui j'ai l'opportunité de plonger au cœur des réalités du racisme en Valais. Cette nouvelle série, elle sera composée de 6 podcasts et c'est une initiative qui est spécialement conçue pour la Semaine contre le racisme 2024 du canton du Valais en partenariat avec le Bureau cantonal de l'intégration et le Bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge du Valais. Elle découle d'une campagne de recensement de témoignages de racisme menée en 2023 et axée autour du slogan « Du racisme chez nous, je témoigne ». Et tout ça, ça a permis de recueillir des récits anonymes qui décrivent les expériences quotidiennes de racisme qui sont vécues par les individus en Valais. Et donc ce podcast, il sera enrichi par des témoignages qui ont été enregistrés à partir de personnes qui ont vécu des discriminations racistes en Valais, et ces témoignages sont anonymisés pour protéger l'identité des témoins. Avec l'association L'Inconfortable, on propose régulièrement des formations, des ateliers, des tables rondes, des conférences, des podcasts, des capsules vidéo et encore plein d'autres activités qui sont destinées à lutter activement contre les discriminations racistes, sexistes, homophobes et intersectionnelles. Et tout ça dans le but de créer une société plus inclusive. Donc on va bientôt créer un site pour recenser tout ça, mais en attendant, si nos activités vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur les réseaux ou par email. Dans ce deuxième épisode, on explore différentes dimensions du racisme en mettant l'accent sur les racines coloniales de l'injonction à blanchir sa peau. On parlera aussi d'assimilation forcée et de déni des langues et cultures d'origine des personnes issues de la migration. Et on abordera aussi l'importance de déconstruire les stéréotypes de violence domestique et de criminalité qui continuent de peser sur les hommes défavorablement racialisés et ou issus de la migration. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration profonde et nécessaire des injustices raciales en Valais. Et sans plus attendre, je vous invite à écouter un extrait du témoignage du jour donné par une personne que j'ai fictivement nommée Victoria, un nom porté au Brésil comme au Portugal qui signifie « la victorieuse » ou « celle qui a vaincu ». Bonne écoute.
Qu'est-ce que ça m'a choqué en Suisse quand je suis arrivée ici, dans la famille de mon ex-mari, que certains membres de sa famille avait peur que je salie la nappe qui était blanche. Alors parfois, j'étais obligée de manger dans la chambre. Il m'a amené l'assiette dans la chambre. Et une fois fini, il disait « Bon, maintenant, voilà, tu peux venir travailler. » Ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. La peur, c'est comme si j'avais une maladie, comme si c'était contagieux, au sale, ma couleur de peau qui allait tâcher cette nappe blanche. Alors, au départ, c'était la première fois que ça m'est arrivé. J'étais choquée. Je ne comprenais pas. Je dis, mais parce que dans ma tête, ma couleur de peau n'allait pas salir la nappe. Mais pour eux, ils répétaient tellement souvent que ça m'arrivait des fois d'aller me doucher, de gratter, de me laver. Vraiment. Parce que tellement que c'était à répétition ces mots.
Ce qu'a subi Victoria par sa belle famille suisse, c'est une injonction raciste à blanchir sa peau, une pratique controversée qui consiste à utiliser des produits sur la peau dans le but de l'éclaircir. Dans certaines régions, cette pratique elle remonte à des millénaires. Là où la peau blanche elle était souvent associée à la beauté, à la richesse et à des normes de classe sociale élevées. Autrement dit, la peau foncée, c'était le signe qu'on travaillait dans les champs, sous le soleil, et qu'on appartenait donc aux classes les plus pauvres. Et à l'inverse, avoir le teint pâle, ça revenait à montrer qu'on avait un statut socio-économique élevé et qu'on appartenait donc à une classe plus riche qui avait le privilège de ne pas avoir à travailler à l'extérieur et à abîmer sa peau au soleil. Évidemment, l'idée qu'il faut à tout prix se blanchir la peau, c'est aussi étroitement lié à l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme. Pendant l'ère coloniale, les colons européens, ils ont imposé leurs propres normes de beauté aux populations indigènes des territoires qui étaient colonisés. Et les idées de beauté européens, qui favorisent souvent les peaux plus claires, les cheveux blonds et les traits faciaux occidentaux, eh ben tout ça c'était promu comme des standards à atteindre. Cette hiérarchie raciale, ça a forcément fini par avoir un impact sur les normes de beauté locales, avec une préférence de plus en plus grande pour les caractéristiques physiques qui ressemblent davantage à celles des colonisateurs. Je ne serais pas surpris de savoir que les entreprises coloniales, elles se sont pas gênées pour exploiter cette demande en commercialisant des produits éclaircissants, et ça, ça a contribué à perpétuer et à normaliser l'idée que la peau claire, c'était préférable. Et d'ailleurs, même après la fin de la domination coloniale directe, les normes de beauté coloniale, elles ont continué à persister. C'est-à-dire que les idéaux de beauté européens, ils continuent d'être valorisés et recherchés, et ça maintient forcément la pression sur les individus qui n'y ressemblent pas, et ça les pousse à s'adapter à ces normes, souvent par le biais de blanchiment de la peau, mais pas seulement. Et ça, c'est assez courant encore en Inde, au Nigeria, en Jamaïque, au Japon, en Corée du Sud, et dans bien d'autres endroits encore. Et pourtant, le blanchiment de la peau, ça peut entraîner de graves risques pour la santé, comme des irritations cutanées, des brûlures, des sensations de sensibilité accrue au soleil, des taches sombres permanentes, voire même des complications graves, comme le cancer de la peau. Et puis ça, forcément, l'industrie du blanchiment de la peau, elle s'en fiche complètement, puisqu'elle participe encore largement à la perpétuation des normes de beauté racistes et eurocentrées. Et tout ça, ça dévalorise la diversité des corps à travers le monde, et ça entraîne à long terme des conséquences psychiques qui déforment la perception même des individus à la peau foncée, qui finissent par internaliser le racisme et par penser que leur couleur de peau, elle est ni belle ni désirable. Mais bien évidemment, la belle famille de Victoria, elle s'est pas contentée de la pousser à blanchir sa peau, elle va encore plus loin.
J'avais non plus pas le droit de dire comme quoi je venais de Brésil, parce que même ma culture, d'où je viens, ça devait rester caché. Ma langue, qui est le portugais, j'avais pas non plus le droit de parler. Pas le droit de parler avec ma fille et pas le droit de parler tout court avec d'autres personnes. Comme il disait souvent, oui, je ne veux pas cette langue chez moi, pas de ça chez moi. Donc c'est vrai qu'on vient d'ailleurs, qu'on vient dans d'autres pays, qu'on écoute tous ces mots et qu'on est isolé de tout le monde, on a tendance à croire que d'autres personnes ont raison sur ces mots. Qu'on n'a pas de famille, qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas des amis. On est isolé avec des personnes qui ont ressenti, voilà, que j'appelle ça des personnes qui sont racistes. À un moment donné, on se pose même des questions à nous, sur notre propre origine, est-ce que notre propre identité, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais complètement perdue.
En mettant la pression à Victoria pour qu'elle renie tout ce qui rappelait son pays d'origine, y compris sa culture et sa langue, sa belle famille suisse exerce une forme d'assimilation forcée, profondément raciste. En fait, l'intégration et l'assimilation, c'est deux concepts qui sont souvent utilisés dans le contexte de la diversité culturelle et de l'immigration, et pourtant ils représentent des approches fondamentalement différentes quant à la manière dont les individus et les communautés sont censés s'intégrer dans une société donnée. En gros, l'intégration, c'est le processus par lequel les personnes et les communautés participent activement à la vie sociale, économique et politique d'une société, tout en maintenant leurs propres traditions, leur identité culturelle et leur langue d'origine. En fait, l'intégration, elle est censée favoriser la coexistence harmonieuse des différentes cultures au sein d'une société. Et donc, pour ce faire, elle doit reconnaître et respecter la diversité culturelle tout en encourageant la participation citoyenne et l'inclusion sociale de tous les membres de la société, indépendamment de leur origine, qu'elle soit ethnique, religieuse ou linguistique. Et l'assimilation, par contre, ça, c'est un tout autre processus. Là, en fait, les individus et les groupes culturellement divers, ils doivent abandonner progressivement leurs propres traditions, leur langue d'origine et leur identité culturelle pour adopter pleinement ceux de la culture majoritaire de la société dans laquelle ils s'intègrent. En fait, l'assimilation, ça implique souvent une grave pression sociale ou politique pour que les individus et les groupes minoritaires adoptent les normes, les valeurs et les comportements de la culture dominante. Et ça, ça peut conduire à la perte de certaines caractéristiques distinctes de la culture d'origine au profit d'une plus grande conformité aux normes de la société d'accueil. En résumé, alors que l'intégration, ça encourage la coexistence des différentes cultures tout en respectant la diversité, l'assimilation, quant à elle, elle implique l'adoption des normes et des valeurs de la culture dominante au détriment des caractéristiques culturelles distinctes des groupes minoritaires. En fait, officiellement, la Suisse, elle prône une politique d'intégration plutôt qu'une politique d'assimilation. Mais officieusement, ça peut se passer tout autrement dans la population, comme le prouve le témoignage de Vittoria. D'ailleurs, elle n'est malheureusement pas au bout de ses peines.
Moi, qu'est-ce que je trouve aussi choquant, que quand je parle de violence domestique, je dis, voilà, je parle de moi. Je dis, voilà, j'ai vécu des années de violence domestique. Certaines personnes me disent, oui, mais ton mari, il était étranger. C'est pour ça que tu as vécu la violence domestique. Je dis, non, mon ex-mari, il est suisse. Il n'est pas étranger. Donc, le fait que qu'on est étrangère, qu'on parle de la violence domestique, alors c'est souvent, je dirais même à certains professionnels, automatiquement certains ils disent oui, mais ton mari vient de quel pays? Là, de nouveau, on doit se justifier parce qu'on est étrangère, parce qu'on a vécu la violence domestique, se justifier encore, je dirais même encore une autre forme de violence pour, à un moment donné, on dit oui, mais ça arrive en Suisse, ça arrive pas seulement avec des personnes qui viennent de l'étranger, des personnes voilà, qui sont de couleur de peau, etc. Mais non, mais le fait qu'on entend ça, eh ben, ton mari, il est étranger, c'est pour ça que tu as vécu la violence domestique, c'est encore un autre traumatisme qu'on vit. Et je trouve que ça, c'est terrible, c'est choquant de justifier le fait que vous avez vécu tout ça, que vous dites comme quoi votre ex-mari, voilà, la personne qui vous a maltraité, c'est en Suisse, la personne, elle va encore vous juger parce que ça ne se dit pas. Si vous étiez violenté, maltraité par un Suisse, ça ne se dit pas. Automatiquement, pour beaucoup de personnes, pour certains professionnels même, eh ben, c'est des personnes qui viennent d'autres pays. Je ne suis pas d'accord. Qu'on parle de violence, qu'on parle de féminicide, c'est important quand même qu'on dise que ce n'est pas l'origine de la personne qui a tué. C'est la personne, parce que souvent dans les médias, on lise, voilà, un Portugais de telles années a tué sa femme, un Brésilien de telles années a tué sa femme. Mais quand c'est un Suisse qui tue sa femme, ils ne vont pas dire, oui, un Suisse a tué son épouse. Ils disent, voilà, c'est un mari qui a tué son épouse. Et quand c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, il reste plutôt dans ses origines. Donc, c'est important quand même que les personnes qui lisent justement certains journaux ne restent pas sur l'origine des personnes. Ce n'est pas parce que c'est une personne qui vient d'un autre pays qui a tué que toutes les personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'autres pays, qui vont tuer aussi, qu'on fasse la différence, pas qu'on mélange tout.
Ce que dénonce Vittoria, ça s'appelle des violences domestiques. Selon un rapport produit par l'Observatoire roman du droit d'asile et des étrangers, la violence domestique est un phénomène dont l'ampleur est encore trop souvent sous-estimée. En fait, selon l'Office fédéral de la statistique, durant l'année 2014 en Suisse, c'est pas moins de 15 femmes qui sont mortes des suites d'une agression commise dans le cadre de leur couple et 25 femmes ont été victimes d'une tentative d'homicide par leur partenaire. Malheureusement, les violences vécues au sein du couple sont pour beaucoup de raisons très difficiles à dénoncer pour toutes les personnes qui sont concernées. En fait, pour les femmes non ressortissantes de l'Union européenne, qui sont mariées à un Suisse ou à un étranger, au bénéfice d'un droit de séjour en Suisse, eh ben, il existe carrément un obstacle supplémentaire qui les décourage souvent d'entreprendre toute démarche de séparation et de dénonciation. Le gros problème, c'est que d'après la loi, le renouvellement de leur titre de séjour, initialement obtenu par regroupement familial, eh ben, ça dépend de la poursuite de la vie commune. Donc même si la loi elle prévoit le renouvellement du permis en cas de séparation pour violence conjugale, de nombreux obstacles persistent dans la pratique. Donc, autrement dit, en se séparant de leur époux violent, ces femmes, elles prennent le risque de perdre leur autorisation de séjour et d'être expulsées du pays, parfois avec leurs enfants. Du coup, quand elles sont informées de cette loi, il y a beaucoup de ces femmes-là qui hésitent à quitter leur époux et à dénoncer les violences subies, et ça se fait au péril de leur vie. Mais on peut les comprendre, si le risque c'est d'être envoyé dans son pays d'origine avec tous les problèmes que ça peut impliquer et tous les risques qu'on peut prendre, eh ben, elles vont pas forcément oser. En plus des problèmes rencontrés par les femmes issues de la migration qui subissent des violences domestiques, le stéréotype selon lequel les hommes défavorablement racialisés et ou originaires de l'étranger seraient supposément plus violents avec leurs conjointes que les hommes suisses, eh ben ça continue de persister cette idée. Et pourtant, comme le prouve Vittoria dans son témoignage, la violence domestique, elle n'est pas limitée à certaines cultures ni à certaines communautés, puisque son mari, à elle, il est bien suisse. Et ça montre que cette violence, elle existe dans tous les pays et dans toutes les communautés, quelle que soit la nationalité ou l'origine de l'homme. Malgré ce constat, c'est un cliché qui persiste encore très fort dans nos représentations mentales et qui continue d'être largement renforcé par la plupart de nos médias, comme le fait remarquer Vittoria. Ces stéréotypes, en fait, ils sont liés à des préjugés raciaux qui sont profondément enracinés dans nos imaginaires collectifs et qui associent les hommes appartenant à certaines communautés raciales à la violence et à la criminalité. Et ça, c'est une croyance qui a des conséquences graves sur la manière dont ces hommes sont aujourd'hui encore perçus et traités dans notre société. Parce qu'en fait, ces stéréotypes, ils peuvent conduire à une véritable stigmatisation et à une discrimination systémique à l'égard des hommes défavorablement racialisés et ou issus de l'étranger, en particulier dans le système judiciaire et les politiques migratoires. À cet égard, Vittoria délivre un dernier message empreint de courage et d'espoir.
Alors le message que j'ai à passer, c'est qu'il ne faut pas se taire, il faut parler, il faut demander de l'aide. Certaines personnes vont avoir peur de dire, voilà, je vais à la police, ça va me faire peur. Mais il y a aussi d'autres moyens aussi, ça veut dire d'écrire une lettre au procureur pour porter plainte. Parce que si on ne fait rien, ces personnes qui... parce que ça, c'est la discrimination raciale. Ces personnes, elles vont continuer avec d'autres personnes. Donc, il faut dire stop pour que les gens y comprennent non, ce n'est pas normal. Donc, le fait qu'ils disent stop, d'aller plus loin, porter plainte, dénoncer cette discrimination raciale, ça va aider énormément d'autres personnes aussi, parce que si on ne fait pas, les personnes qui insultent, qui injurent d'autres personnes qui viennent dans d'autres pays, elle va continuer plus loin et elle va être encore plus puissante, plus violente.
On arrive à la fin de cet épisode. Sachez que si vous êtes victime de violences domestiques, il existe en Suisse plusieurs organisations et services spécialisés, comme par exemple l'Association pour la protection contre la violence domestique, l'Organisation suisse d'aide aux victimes ou encore la Fédération suisse des maisons d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales, qui offre notamment un refuge sécurisé temporaire aux femmes et à leurs enfants victimes de violences domestiques. Et en Valais, plus précisément, il y a une organisation qui offre de l'aide aux personnes victimes de violences domestiques. Et ça s'appelle le Centre Valaisan de consultation conjugale et familiale. En fait, cette organisation, elle propose des services de soutien, de conseils et d'accompagnement aux individus et aux familles qui sont confrontés à des problèmes relationnels, y compris la violence domestique. Et cet organe-là, il offre en fait en gros un espace confidentiel où les victimes, elles peuvent obtenir un soutien psychologique, des conseils juridiques et des informations sur les ressources disponibles dans la région. Et ils travaillent aussi en étroite collaboration avec d'autres organisations et des services locaux pour assurer une réponse coordonnée aux besoins des victimes de violences domestiques. Bref. N'oubliez pas que aussi, si vous êtes victime de discrimination raciale ou si vous êtes témoin de telle situation, il ne faut pas hésiter à contacter le bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge Valais. Depuis le 1er avril 2015, ce service offre un espace d'accueil, d'écoute et de soutien aux personnes victimes de racisme, ainsi qu'à leurs proches et aux témoins. Merci encore pour votre écoute, parce que c'est pas rien, il s'agit là d'un premier engagement dans la lutte contre les discriminations racistes. Merci à Nathan Matando de l'association Carré Rouge qui a réalisé les enregistrements des témoignages et à la boîte Forme pour les graphismes. Je remercie aussi chaleureusement le bureau cantonal de l'intégration et le bureau d'écoute contre le racisme de la Croix-Rouge du Valais pour leur précieuse collaboration et pour leur soutien. Un grand merci à Faïsa Cissé pour les musiques et les jingles de cet épisode. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Ciao !